Merci infiniment. Donc, je me présente à vous. Je suis effectivement ici en résidence jusqu'à début juin. Je reviendrai en octobre. Je travaille à un livre dont je ne vais pas parler ce soir, parce que ce n'est pas encore là. Mais seulement pour vous dire que ce livre est une sorte de plongée généalogique à travers des histoires d'hommes au cours du XXe siècle qui ont été plus ou moins fracassés par l'histoire de la guerre. Et le livre cherche à comprendre, notamment en passant par un certain nombre de thérapies auxquelles j'ai dû avoir recours, le livre essaie de comprendre, sous la forme du roman, pour aller vite, ce qui traverse les âges et comment est-ce qu'il nous compose, au fond, est la cristallisation d'un certain nombre de mémoires généalogiques, de mémoires d'ancêtres, et par où ça passe. Donc, j'avais dit que j'en parlerai pas, mais je vous en dis quelques mots, parce que, avant de vous faire tout un parcours, après, ce que je ferai, c'est juste simplement vous raconter un parcours. Mais comme je suis plongé actuellement dans l'écriture, je vous en dis un peu plus. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la psychogénéalogie, mais la psychogénéalogie étudie au fond exactement ça, des mécanismes de répétition. Allez-y, bienvenue. C'est bien comme ça, j'ai pas encore vraiment commencé. Et donc la forme du livre, puisque c'est ça qu'on cherche quand on est écrivain, et c'est ça que je vais faire, je crois, avec vous là aujourd'hui, c'est de vous faire rentrer peut-être dans la tête d'un écrivain, en tout cas d'une de mes pratiques, qui est l'écriture. Ce que je cherche à faire avec cette matière généalogique, c'est d'essayer de voir quelle serait la forme romanesque qui rend compte de ce drame qui se joue entre les corps à travers le temps. Donc on a habituellement l'idée d'un roman un peu classique et sans doute selon des cadres qui ont été fixés au temps de l'apparition, disons, du grand roman bourgeois. On se figure souvent le roman comme, disons, l'intersection entre des personnages qui sont plus ou moins campés avec des psychologies, etc., qui serait un peu la figure du roman réaliste. Et tout ça, évidemment, a volé en éclats pour tout un tas de raisons tout au long du XXe siècle. On vit actuellement une époque plus ou moins de restauration. Vous entendez beaucoup parler de la restauration de Notre-Dame. C'est un peu la même chose dans les arts ou dans la littérature. C'est la même chose. C'est-à-dire que les gens cherchent des formes, disons, rassurantes, restaurées, au fond. Et donc on voit revenir ce cadre bourgeois du roman, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je pense que l'art a une histoire, et je pense que tout artiste doit, disons, avoir en conscience ou conscience d'une certaine, d'un certain état, un moment où il écrit, donc de ne pas répéter ou répliquer des cadres du passé. Et donc cette fiction généalogique, elle cherche ça. Elle cherche, en débordant complètement la question des personnages ou autres, à voir comment le drame se joue entre les vies à travers le temps. Voilà, pour aller vite. Mais peut-être qu'on en reparlera en octobre. Je sais pas. Là, j'ai essayé, pensant que vous ne m'aviez pas lu, parce que je pense que, vu le nombre de lecteurs que j'ai, il y a des chances qu'à Montrichet, vous n'ayez pas beaucoup lu mes livres. Même si je dois dire que j'ai la chance d'avoir des bons lecteurs, mais ils ne sont pas encore beaucoup arrivés jusqu'à Montrichet, sans doute. Mais j'espère que vous serez de ceux-là. Je vais vous retracer une sorte de petite histoire à travers quatre livres. Il y en a plus, mais on est là ensemble pour une heure. Mais surtout de la manière la plus ouverte possible, et en partant des images, comme ça au moins, d'une certaine façon, on sait de quoi on parle, et on est tous au même plan lorsqu'on voit ces images. Vous dire aussi que pour moi, un écrivain, c'est pas forcément celui qui est justement qui passe à la grande librairie et qui vend des milliers de livres, mais plutôt celui qui cherche, enfin qui laisse des traces au fur et à mesure de sa vie. On est dans une bibliothèque. Je passais en montant et je voyais ces œuvres comme ça, de gens plus ou moins morts ou vivants, et je me disais tiens, c'est ça, c'est étonnant parce que ce sont des traces comme ça assez discrètes, qui ne parle pas aussi fort que la politique, que l'histoire, que la télévision, que parfois même que la pop ou la musique. Ce sont des traces mais pour moi elles importent lorsqu'elles témoignent du temps, de l'histoire justement, de ces... Donc je pense par exemple à quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui est Stefan Zweig, ou à d'autres écrivains européens qui ont comme ça laissé des traces qui ne sont pas forcément toujours tournées du côté du roman. Je pense à un livre en particulier que j'aime énormément, qui est Le Monde d'hier, dont je reparlerai peut-être, qui est un peu son témoignage à la fin de sa vie sur l'état de l'Europe. Et donc vous verrez que chez moi, il y a une écriture, mais qui ne prend pas forcément la forme du roman. Et donc je vais commencer par un livre qui est très zweigien d'une certaine façon, puisqu'il essaie de prendre un peu la relève de celles et ceux qui essaient en tout cas de raconter un peu l'histoire de l'Europe, mais d'une autre manière, pas comme on la raconte dans les journaux. Et donc j'ai choisi cette photo, vous devez sans doute savoir ce que c'est, vous l'avez peut-être déjà vue, elle est assez iconique. Et donc c'est en lien avec un livre qui a pour titre « Le être et le boulot, essai sur la tristesse européenne ». Et voilà comment ça va se passer, ma parole, c'est que je vais aller et venir entre une image et un livre. Voilà comment ça va se faire. Alors j'en ai pris d'autres, je crois qu'il suffit que je les... Ah oui, elles ne sont pas au même format, je ne les ai pas forcément mis au même format. La voilà en couleur. On est donc à Checkpoint Charlie, en novembre 1989, juste après la chute du mur de Berlin, où je vis désormais, par ailleurs. Je suis parti vivre à Berlin il y a 7 ans. Sans doute un peu, d'une certaine façon, comme s'il fallait vivre à l'intérieur de cette image, des suites de cette image. C'est une image qui est doublement iconique pour moi parce que, en fait, il y a quelqu'un dans cette image qui est ma mère. Et donc, j'étais encore jeune, 89, j'ai à peu près 14 ans. J'en ai 44 aujourd'hui. On va approcher d'ailleurs de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Mais d'un anniversaire important, puisque ce sera les 30 ans, là en 2019. Et à un moment d'ailleurs de l'histoire de l'Europe curieux, où au fond tous ces espoirs qui étaient là, en 89, sont, disons, plus ou moins retombés. Au fond, j'ai montré cette image pour essayer de nous replacer dans ce temps de 89. Alors je ne sais pas où vous étiez, mais il y a de ces événements comme ça où parfois on se souvient où l'on était. Moi j'ai ça sur le 11 septembre, j'ai évidemment ça sur la chute du mur de Berlin. J'étais devant la télévision pour une raison simple, c'est que je n'avais pas encore l'âge de prendre le train, même si j'aurais bien aimé, parce que c'est le premier événement historique auquel je peux me rattacher. Et il y a quelqu'un dans l'image qui est là, et c'est pour ça qu'on me dit « regarde la télévision, parce qu'il y a ta mère ». Puisqu'elle était assez proche de Rostropovitch qui est en train de jouer ici. Donc vous avez comme ça cette figure, cette cristallisation entre un dissident de l'Union soviétique qui vient célébrer la liberté, qui joue d'ailleurs, j'ai recherché ça pour écrire le livre, la sarabande de la troisième suite donc de Bach, et qui est un morceau assez mélancolique au fond. Et le livre part de là. Le être et le boulot, essai sur la tristesse européenne, est d'une certaine façon une histoire contrapuntique, dirait un musicien, c'est-à-dire en contrepoint de l'histoire officielle. Ça part de cet événement et de ce moment où Rostropovitch joue la sarabande de la troisième suite, et ce que le livre cherche à comprendre, c'est pourquoi l'événement était déjà, pour l'enfant que j'étais alors, triste. Donc, cette tristesse à rebours de ces chants de joie d'alors. Et donc il y a, si vous voulez, sans doute sans cesse chez moi une attention au grand refrain qu'on nous impose et comment la littérature vient déplacer ces grands chants comme ça collectifs que les médias chantent la plupart du temps. Et donc là, vous vous souvenez, ou je vous le rappelle, c'était l'idée, la démocratie, la liberté, l'unité de l'Europe à venir, l'entrée potentielle déjà des pays de l'Est dans ce vaste ensemble, et au fond un horizon d'avenir sorti des hantises de la guerre, de l'histoire, de la violence, pour aller vers une forme très kantienne d'ailleurs de paix perpétuelle. Pour aller vite. Ça allait avec d'ailleurs un refrain qui m'a toujours suivi. Et au fond, ça me permet de vous dire une chose sur la façon dont j'écris. C'est que je me rends compte de livre en livre que c'est comme si j'allais creuser par l'écriture dans les fictions que l'on m'a racontées lorsque j'étais enfant. Ou plus ou moins enfant, jeune. Au fond, c'est ce rapport comme ça où dans l'enfance, on grandit dans un certain nombre de systèmes de croyances qui sont plus ou moins bien racontés. Et là, parmi ces fictions qu'on nous racontait, c'était l'appel à la démocratie, la sortie de l'histoire, enfin, etc. Et c'est comme si, en vieillissant, le geste de l'écriture consistait à aller faire le contrepoint, aller reprendre cette histoire en disant « mais qu'est-ce qui était là qui était faux, qui n'allait pas ?» dans la façon qu'on a eue de raconter le présent. Et donc voilà le être et le boulot qui démarre ce livre de ça. Ce que j'essaye de comprendre, puisque je vous invitais à rentrer dans la tête d'un écrivain, ce que j'essaye de comprendre, c'est pourquoi, pour l'enfant que j'étais, cet événement était triste, alors que tout le monde chantait la liberté et autres, et se réjouissait.